Bonjour, vous écoutez l'épisode 145 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, céréale choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne les personnes qui veulent vivre mieux à se composer une vie choisie et à déployer leurs projets sans s'oublier ni se brûler en chemin. Pour ça, je les accompagne à se poser pour revenir à leurs essentiels, à doser leurs efforts pour faire mieux plutôt que trop et à oser se créer une vie sur mesure, plus légère et plus profonde à la fois. Si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous, sachez que je propose une première conversation en visio, offerte et sans engagement, pour identifier si un coaching est pertinent pour vous actuellement et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple, direction mon site oriannesavouré-lucas.com. Avez-vous choisi le podcast ? Ce sont trois formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation, avec une personne et son précieux supplément d'âme, pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et enfin, l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix, qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard. J'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec May Lopez, la fondatrice de Les mots à l'affiche. May crée des affiches inspirantes, infusées aux bonnes intentions, qu'elle propose à la vente depuis quelques années. May aime choisir des mots pour mettre en lumière, pour faire résonner et pour partager les petits et les grands moments de la singulière aventure de la vie. Avec ses affiches thématiques, May diffuse et transmet des mots doux et puissants pour poser une intention, pour remercier, pour célébrer, pour rêver, pour encourager, pour grandir ou encore pour oser entreprendre. J'ai découvert son travail il y a quelques années maintenant et j'ai sollicité May alors pour transformer les joies et les plaisirs de ma petite famille en une affiche sur mesure qui trône depuis dans notre cuisine angevine. Avec May, nous partageons le goût des mots, de la poésie des choses simples, du beau et de la profondeur. Alors j'ai eu envie de lui tendre mon micro pour parler de choix avec elle, de la place du choix dans son parcours, dans son métier et de la relation qu'elle entretient avec le choix. May m'a d'abord dit que le choix et elle, ce n'était pas une histoire simple, qu'elle ne savait pas choisir et que s'exprimer sur ce thème lui donnait quelques palpitations. Cette conversation autour du choix que nous avons enregistrée en décembre 2021, c'est donc un épisode au goût de challenge relevé pour May, parce que c'était son premier enregistrement pour un podcast et parce que parler du choix, ça n'a, vous l'aurez compris, rien d'une évidence pour elle au départ. May s'était promis que malgré la peur, elle voulait enregistrer cet épisode de podcast avec moi avant la fin de l'année 2021. Alors je suis enchantée qu'elle ait relevé son défi et je suis ravie aujourd'hui de vous partager notre échange. Au cours de notre conversation, May et moi parlons entre autres de la place du choix dans la grande aventure d'entreprendre, d'envie, de sur-mesure, de sens et d'évidence, de peur, de bonheur et de valeur, du pouvoir des mots et des rencontres, d'intention et d'intuition, d'inspiration et d'infusion, d'incarnation et de transmission, de justesse, d'écriture et de processus créatif, du choix de célébrer en mots les moments et les personnes qui comptent, ou encore des graines qu'on sème au vent et du pouvoir des petits choix. Alors sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour May.
Bonjour.
Bienvenue dans Avez-vous choisi ? Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui.
Je suis super contente d'être avec toi. Écoute, ça fait un petit moment qu'on essayait de savoir et que c'était difficile. Et du coup, je suis contente que ce soit avant la fin de l'année parce que ça faisait partie de mes grandes intentions de début d'année d'oser enregistrer un podcast, au moins.
Voilà, donc ça c'est fait, on y est. Donc merci de ta confiance pour cette première participation à un podcast. Et puis surtout pour parler du choix, on va parler bien sûr de ton parcours, on va parler de l'aventure de ton entreprise, hein, les mots à l'affiche. Et puis j'aimerais commencer par cette discussion qu'on a déjà eue autour de la question du choix, parce que quand on a parlé du choix, tu m'as très très vite dit que pour toi le choix c'était compliqué, que tu savais pas vraiment choisir, que c'était un sujet qui était
qui était plutôt épineux pour toi. Et tu l'as d'ailleurs aussi écrit et tu l'écris régulièrement dans tes newsletters. Donc, je suis curieuse de savoir avec tes mots, quelle relation tu entretiens aujourd'hui avec le choix et quelle histoire tu entretiens avec le choix.
Oui, alors c'est une question du coup où j'ai beaucoup réfléchi vu qu'on devait faire ce premier podcast en avril et du coup depuis c'est une question qui infuse un petit peu et en fait je me dis que la question du choix je peux dire très facilement je ne sais pas choisir et en même temps il y a quelque chose de très évident, c'est-à-dire que si je ne sais pas choisir c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment et ça s'arrête là. Et il y a le choix qui devient une évidence, c'est-à-dire je ne sais pas me faire des listes en me disant ça c'est pour, ça c'est contre, et du coup je vais faire un choix raisonnable, ça je ne sais pas faire, et si j'essaye de faire ça c'est la panique totale. Mais par contre y a des évidences que j'écoute et je ne sais pas faire autrement. Ça a été dans le cas de mes études où j'ai fait des études de lettres et de philo où raisonnablement on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire après des lettres et des philo, et moi j'étais sûre de ça et il n'y avait pas d'autre choix possible. Et quand je me suis mise à mon compte, c'était la même chose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais Mei, t'as pas de réseau. D'abord, passe par une grosse entreprise pour te construire un réseau, aussi des méthodologies de travail. Et après, mets-toi à ton compte. Moi, c'était hors de question. Je savais que je devais faire ça. Et du coup, finalement, le choix, il y a des périodes qui sont très, très longues où je ne sais pas. J'ai une citation que j'aime beaucoup de Rilke, qui parle de ces questions qui sont sans réponse et que le choix viendra. Et c'est une citation qui me guide depuis des années et qui m'apaise aussi énormément en me disant, je ne sais pas, mais ce n'est pas grave, la réponse va finir par arriver.
Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis là, c'est qu'effectivement, le choix, la question du choix peut nous mettre en panique. En plus, dans une société où on est confronté au choix en permanence, en fait, au quotidien, dans les grands choix, etc. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a une forme de rapport très sain que tu as avec la temporalité du choix. C'est-à-dire, il y a un temps d'infusion.
Oui,
et puis, tu n'as pas envie de forcer les choses. Il y a quelque chose qui va se faire. À un moment donné, le choix va se dénouer, hein, comme une pelote de laine qui se dénoue petit à petit. Et puis, quelque chose va surgir. Et j'entends, en fait, une forme de confiance absolue dans le fait que le temps d'infusion va être ton allié et que il y aura à un moment donné une évidence qui va surgir. C'est ça?
Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, même si je ne fais pas de choix, moi, je sais que la vie fera un choix pour moi parce qu'il y a un moment où il faut prendre des décisions et ça a toujours marché pour moi et ça a toujours fonctionné, très très bien fonctionné. On m'a par exemple aussi beaucoup dit quand je me suis lancée à mon compte où j'avais beaucoup trop de clients, du coup moi je faisais de la communication et je faisais des sites web, des logos et j'accompagnais les entrepreneurs, les créateurs à se faire connaître sur internet et j'avais beaucoup de boulot. Tout le monde m'a dit mais Mei, crée ton agence, et je disais à tout le monde je n'ai pas envie de créer une agence, j'aime être libre, j'avais besoin de voyager, j'avais envie aussi de voyager surtout. Et du coup, j'avais pris une stagiaire et je me suis rendu compte que le fait de devoir être là, de devoir de perdre cette liberté, je n'avais pas envie. Et tout le monde me disait, mais Mei, tu vas plus en pouvoir de faire des sites web, il faut que tu aies un petit peu d'ambition. Et moi, je disais, non, j'ai pas envie d'avoir des locaux, j'ai pas envie d'avoir toutes ces contraintes. Et finalement, j'ai créé Les Mots à l'affiche il y a un peu plus de 3 ans. Et je me dis que si j'avais créé mon agence, peut-être que Les Mots à l'affiche n'auraient pas existé. Et je me sens bien aujourd'hui dans Les Mots à l'affiche. Effectivement, j'avais cette routine avec le côté communication, agence de communication qui commençait à arriver. Mais j'ai trouvé un nouveau projet. Et pas ce projet dans lequel, raisonnablement, j'aurais dû m'engouffrer parce que j'avais trop de travail, que je refusais des contrats, à me dire embauche, délègue et crée quelque chose d'ambitieux tout de suite qui ne correspondait pas à moi à ce moment-là. J'avais envie de voyager, d'avoir du temps pour moi.
Oui, c'est ça.
Et pas du tout de faire ce projet qui semblait évident pour les 3/4 des gens que je croisais.
Oui, ce que j'entends, c'est que tu ne fais pas le choix de la raison, dans ce que j'ai entendu, par rapport à ce que les gens te disent, normalement, il faudrait faire ça et ça, vu ton potentiel ou vu le potentiel de l'idée que tu as, tu devrais faire ci ou ça. Et toi, tu fais le choix de ce qui résonne pour toi.
C'est ça.
Voilà, il y a ce temps d'infusion, il y a ce temps de se dire, les choses vont se décanter, et en même temps, j'entends une grande clarté dans ce qui est important pour toi, cette
Oui.
envie de liberté, d'autonomie, d'agilité finalement dans la manière dont tu t'organises dans ton quotidien personnel et professionnel. Et puis ce que j'entends derrière, moi qui me parle complètement, parce qu'on a des parcours, notamment en termes d'études, très, très proches. Moi c'est pareil, j'ai fait des études de lettres et tout le monde, enfin lettres philo et anglais. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, je sais pas, mais en tout cas, moi c'est ça que j'aime, donc je vais aller vers ça. La suite, on verra bien, donc ça résonne complètement. Mais ce que j'entends, c'est que. Quand tu parlais tout à l'heure de ces personnes qui te disaient il faut que tu aies plus d'ambition, j'entends que
Oui.
c'est lié au fait que par rapport au potentiel que les personnes autour de toi détectaient en toi, dans tes idées, dans tes projets, dans ce que tu pourrais emporter, et que toi, t'as pas fait le choix de la réussite hors sol et selon la grille
Oui,
sociétale, on va dire, mais tu as fait le choix de ta réussite selon ta propre grille de référence, c'est ça?
et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Déjà, je suis très, très nulle pour me forcer sur le long terme à faire quelque chose que j'aime pas. Et du coup, cette question du bonheur et ce qui me rend heureuse, et mon intuition là-dedans est très, très forte et je ne sais pas faire autrement, sûrement parce que j'ai eu la chance d'être assez débrouillarde et de me créer mon métier sur mesure très tôt, où j'ai réfléchi à ça très, très, enfin, dès la sortie de mes études et même avant, parce que j'avais mon blog, où je mettais en avant ce que j'avais envie de faire et j'ai pas envie de, maintenant que je connais ça, que je sais que c'est possible. Faire quelque chose juste pour la sécurité, pour moi, c'est pas quelque chose qui me rend assez heureuse, la sécurité. Alors, il y a des jours où je pourrais dire j'en ai marre, c'est frustrant, c'est usant d'être à son compte, d'être toute seule et d'avoir peur pour plein de choses. Mais finalement, je sais que tout ce que ça m'apporte en termes de bonheur, ça a pas de prix. Et je suis pas prête à le lâcher pour le moment. Peut-être que dans 10 ans, je tiendrai un autre discours, je sais pas. On peut changer. Mais aujourd'hui, je suis très, très heureuse d'avoir un métier qui me permet de vivre et à la fois qui correspond à mes valeurs, qui est revenir à la littérature, à rendre accessible la littérature par des affiches, au graphisme, donc qui sont mes études que j'ai faites après la philo et les lettres, et de pouvoir partager ces valeurs-là et participer à des beaux moments avec les gens, parce que les affiches, on les offre à quelqu'un qu'on aime pour dire merci à ses parents, à sa grand-mère, à son oncle, après une collaboration. Enfin, je suis là dans des moments très forts et je me dis, je pourrais pas faire quelque chose qui n'a pas de sens aujourd'hui. Je suis tellement ancrée là-dedans depuis tellement d'années que ça serait très compliqué.
Je reprends une expression que tu as évoquée tout à l'heure et que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup aussi, qui est le choix de créer sur mesure. Tu l'as dit pour le métier que tu exerces aujourd'hui, pour les mots à l'affiche. Voilà, tu l'as imaginé forte de tout ton parcours, de ce que tu aimes, des valeurs, de ce que tu avais envie de proposer aussi. Et puis c'est ce que tu proposes aussi à la fois dans le fond et dans la forme avec les mots à l'affiche. Donc ça me permet justement d'aborder cette question du choix que tu as eu de créer les mots à l'affiche. C'est quoi l'histoire? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu la genèse de ce choix de création?
Alors, l'histoire est très longue. Alors, moi, je suis quelqu'un qui suis très, très lente. Bah, comme je te disais il y a quelques minutes, souvent, j'ai des questions et je n'ai pas les réponses. Et ça faisait très longtemps que je faisais des affiches avec des mots pour moi, pour savoir ce que je voulais et pour les afficher. Donc, j'ai commencé en 2014 avec une affiche que j'envoyais à mes clients, du coup, aussi pour leur souhaiter les vœux. Je l'ai fait en 2015, en 2016, et en même temps, je la partageais sur mon blog. Et chaque fois, j'avais des retours, énormément de retours. Je partageais beaucoup de choses à télécharger, à offrir sur le blog. Je fais ça, je crois, depuis 2013 ou 2012. Et quand je partageais cette affiche-là, j'avais toujours un petit peu plus de retours. Et en 2017, du coup, j'ai écrit une affiche de vœux. Et là, plusieurs personnes m'ont dit, mais pourquoi tu ne la vends pas? Du coup, je me suis dit, je rentrais, du coup, je l'ai écrite au Mexique. Je rentrais du Mexique, je crois que c'était un samedi. Le dimanche, je code un petit site, enfin un petit e-shop pour pouvoir l'acheter. Et je me dis, je vais essayer de la vendre, on verra. Et j'ai peut-être une trentaine de commandes le lundi. Je n'avais pas du tout passé commande chez l'imprimeur. Je m'étais dit, si personne l'achète, on ferme la page, on n'en parle plus. J'ai commandé du coup 250 affiches que j'ai vendues en 2-3 mois peut-être. Sauf qu'on était en décembre, que décembre, c'est mon gros mois en communication parce que j'ai les clients qui veulent finir quelque chose absolument parce qu'ils se l'étaient dit pour la fin de l'année, ceux qui communiquent pour Noël, ceux qui veulent des devis pour l'année qui arrive. Et moi, je me transformais en postière, enfin postière, en personne qui fait des colis, qui ne sait rien faire sur les colis. Donc, j'allais acheter le papier de soie hyper cher, comme si j'allais chez Cultura pour du public, mais par 10. Alors maintenant, je les achète par 250 et ça me coûte moins cher que les 10 que j'achetais. Je voulais rajouter des petits bonbons de Toulouse et je me rendais compte que ben, je dépassais la tranche du seuil en plus par la poste et ça me revenait beaucoup trop cher. Enfin, toutes les galères de quand on ne sait pas et qu'on débute et que je n'avais pas prévu parce que je ne m'attendais pas à avoir ben, à vendre les 250 très, très rapidement. Ce qui fait qu'une fois que j'ai fini devant les 250, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, non, je ne veux pas me transformer en faisant de la manutention. Ça, c'est pas, ça me rend pas heureuse. Moi, j'aime créer des affiches, j'aime écrire, mais c'est beaucoup, beaucoup de temps. Il s'est passé, j'ai donc arrêté cette année-là, ces 250. J'ai refait une affiche pour l'année d'après que j'ai revendue, mais c'était voilà, borné à deux affiches avec ce projet de mot d'affiche. En me disant, j'ai changé de statut, je me suis séparée de mon compagnon, il fallait que j'aie des revenus un petit peu plus élevés, je ne voulais pas déménager. Et du coup, bah, j'avais plus de charges, que ce soit en changeant de statut ou bah, en étant seule. Et du coup, j'ai suivi une formation pour savoir comment générer plus d'argent avec la partie ce que je faisais comme métier. Et je me suis rendu compte très rapidement que je savais comment gagner plus d'argent, comment facturer plus, mais que je n'avais pas envie. Enfin, j'avais pas envie de déléguer, j'avais pas envie de facturer des choses ou un prix qui me semblait plus élevé parce que les gens facturent plus, mais que ça prend pas tant de temps que ça finalement. Et que le côté agence de communication, les gens venaient via mon blog parce que c'était du mail qu'ils voulaient. Déléguer, ça n'avait pas tant de sens que ça. C'était vraiment une extension de moi. Ce côté où j'avais créé vraiment un cocon d'une communication sur mesure, où on échangeait énormément avec le client et ça n'avait pas de sens de travailler avec d'autres personnes, ni de surfacturer. Moi, mes prix me semblaient justes et je ne voulais pas aller au-delà. Et du coup, j'avais ce projet d'affiche en me disant, bah, si je le fais, par contre, je ne veux pas faire un entre-deux, je veux vraiment créer un vrai projet. Ça m'excitait aussi intellectuellement parce qu'il y avait toute cette partie bah, point de vente que je ne connaissais pas. Et moi, j'adore la nouveauté, j'adore découvrir des nouvelles choses. Et il y avait la partie packaging. Il y avait aussi, moi, je donnais du conseil, je donnais des cours de communication dans des écoles. Et je me disais, c'est un petit peu facile parce que j'explique à tout le monde qu'une communication émotionnelle avec du sens, avec de l'amour, des valeurs, ça fonctionne, qu'on n'a pas besoin de publicité, qu'on n'a pas besoin de budget énorme. En leur donnant l'exemple de mon blog qui a 15 ans. Et du coup, je me disais, oui, peut-être qu'aujourd'hui, j'y arriverai pas. Et du coup, bah, créer ce projet-là, c'était aussi remettre les mains, me mettre à la place de mes clients et voir si vraiment ça fonctionnait et pas juste donner des conseils en disant, bah, ça fonctionne, je m'attribue un petit peu le mérite, ça fonctionne pas. Je leur dis, ah, mais non, mais là, vous n'avez pas tout à fait bien fait. Et du coup, je voulais aussi me plonger là-dedans. Donc, il y avait bah, ces deux aspects-là, un aspect aussi bah, d'abord un nouveau projet. D'un point de vue financier, côté de me mettre à la place de mes clients. Et aussi, c'était le projet où je me disais finalement, ben, ça allie ce que j'aime, c'est-à-dire l'écriture et le graphisme. Et il n'y avait pas quelque chose où je me sentais ben, plus à ma place. Et voilà, et donc j'ai lancé ça, j'ai lancé ça il y a 3 ans et ça marche et c'est chouette.
Bravo, bravo. Et ce que j'entends à nouveau, c'est l'importance pour toi de cette notion de justesse. C'est-à-dire qu'à toutes les étapes, il n'y a rien de forcé. Il y a des choses qui, voilà, le temps est à nouveau est ton allié et il y a des indices, il y a des petits signaux faibles d'abord, puis qui sont de plus en
C'est ça.
plus présents, qui t'invitent à prendre plutôt ce chemin-là. En tout cas, il y a une forme de, oui, d'évidence, de rien n'est forcé, tout se met en place tranquillement, mais sereinement. Et avec voilà, forcément des questions malgré tout, sans doute aussi des doutes, mais il y a une forme de sérénité qui fait que bah, en fait, ça se met en place, ça avance, c'est aligné, et il y a une forme de congruence aussi. C'est ce que j'entends dans le projet Les mots à l'affiche.
Oui,
C'est tous
après
les...
ça, j'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie.
C'est ça.
Et
c'est plein de petits points, hein, comme on dit, on se retourne et on voit tous les points qui se relient les uns entre les autres. Finalement, j'entends que les mots à l'affiche, bah, ça parle de ton parcours, ça parle de ce que tu aimes, de ce que tu es, de tes valeurs, hein, parce que j'entends aussi, j'ai beaucoup aimé ce quand tu as parlé de, bon, moi, c'était le conseil que je donnais, mais j'avais aussi besoin de me remettre, moi, concrètement en situation pour être alignée aussi entre, je suis pas juste là pour donner des conseils, mais j'incarne le message que je porte. Et finalement, les sujets, la manière de faire, l'opportunité du moment, tout ça, ça a créé une forme de congruence vers, ben voilà, en fait, ça va s'appeler les mots à l'affiche et ça
C'est ça.
fonctionne.
C'est
Génial.
ça.
Super. Et alors, au cœur de ton activité, de les mots à l'affiche, ton travail, c'est de choisir des mots. On retrouve la question du choix. Donc là, j'ai très envie que tu nous partages, si tu en es d'accord, bah, ton processus créatif, justement. Comment prend vie une affiche dans ta tête, sous tes doigts?
Je sais pas, c'est très compliqué comme question. Je crois que j'ai jamais réfléchi à verbaliser cette question. C'est beaucoup d'intuition. C'est un petit peu, enfin, c'est un petit peu comme tout chez moi. Je crois que ça prend beaucoup de temps. Ça infuse. Ça peut être pendant des mois dans ma petite tête sans rien écrire. Et finalement, après, je vais commencer à noter des idées dans un carnet. Et quand j'écris, ça peut être très rapide. Alors, enfin, c'est généralement d'ailleurs, enfin, très rapide. Quand je dis que c'est très rapide, c'est pas, ça peut durer une journée, mais je veux dire, ça va pas prendre des semaines. Après, j'écris très lentement quand c'est de l'écriture, on va dire, créative et pas d'envoyer des mails ou quand j'écris un article sur mon blog parce que j'ai ce côté où pour moi, l'écriture, c'est un muscle. Et depuis que j'ai 16 ans, j'ai un blog où j'écris enfin, pas quotidiennement, mais très, très régulièrement dessus. Et il faut vraiment. C'est la seule chose, j'ai l'impression, de ma vie où je dois être hyper concentrée, où je peux pas. C'est à 100%. Si je suis fatiguée, si j'ai quelque chose qui me tracasse, je ne peux pas le faire. J'aurais beau me forcer, ça faut que je sois hyper apaisée. Et après, j'ai l'impression que c'est un peu de la magie. Je ne sais pas d'où ça vient. J'imagine que bah, c'est la régularité au fil des années où il y a quelque chose qui sort et qui se met en place. Et avec de l'intuition, j'arrive à voir si ça colle ou si ça ne colle pas. Mais il n'y a pas de rituel sacré ou d'une méthode très rigoureuse comme du coup moi je faisais des sites, je codais, où là bah, fallait de la rigueur. Là c'est beaucoup d'intuition que j'ai par contre énormément travaillé. J'ai eu un prof particulier de partir de la seconde jusqu'à mon master où il me faisait écrire 5 lignes pendant. Il me disait, passe-y la semaine, et moi je veux 5 lignes, je veux pas que tu me rendes des copies doubles, je veux 5 lignes, mais avec chaque mot à sa place. Et on passait 2 heures chaque semaine à regarder et à analyser si tout était bien mis. Et j'ai vraiment voilà, ce côté très rigoureux de l'écriture. Quand mes amis me demandent de les relire, c'est toujours, je leur dis, excuse-moi, je suis embêtante et je suis perfectionniste, mais c'est la lecture de chacun, c'est l'intuition et la sensibilité de chaque personne. Mais oui, après, j'ai pas de rituel, de méthodologie.
Oui,
J'essaie d'adapter.
ce que j'entends quand même comme processus, c'est qu'il y a tout ce temps à nouveau d'infusion. On retrouve hein,
C'est
ce,
ça.
voilà, il y a comme un grand nuage de lait
Oui.
dans une tasse d'infusion. Il y a quelque chose qui se prépare, ça infuse. Il y a, j'imagine, beaucoup de sources possibles d'inspiration, des bribes de choses que tu captes, que tu entends.
Oui.
Et puis, par contre, ce que j'entends dans ce que tu dis là, c'est qu'il va y avoir non pas une manière de faire, de dérouler un processus
C'est ça.
d'écriture. En revanche, j'entends qu'il y a, tu as besoin de te créer des conditions favorables sur une
Oui.
journée, par exemple, pour aller produire l'affiche. Est-ce que
C'est
tu
ça.
sais les identifier, ces conditions qui sont favorables, qui sont propices pour toi à l'écriture
Alors
de
ça,
l'affiche?
il faut pas que j'aie trop d'urgence. Si j'ai des, en fait, j'ai pas encore basculé et j'ai pas envie de basculer dans l'écriture. Reste un plaisir et je l'ai jamais vu comme un travail. Quand du coup j'accompagnais des entrepreneurs enfin je continue de le faire d'ailleurs, d'accompagner des entrepreneurs à se faire connaître sur Internet, je faisais l'identité visuelle, je faisais le développement du site. Je les accompagnais au niveau des photos en prenant un photographe. Par contre, la partie écriture, je n'ai jamais voulu le faire. Je n'ai jamais voulu monétiser mon écriture parce que c'est ce qui me reste, c'est quelque chose que j'adore faire. Et je me suis dit qu'à force de le monétiser, J'allais m'en dégoûter si j'écrivais du matin au soir. Je l'ai fait en job étudiant au tout début quand j'ai commencé mon master pendant un été. Et je l'ai vu qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que j'écrivais pour écrire de manière machinale. Donc j'aide mes clients quand c'est pour leur portrait, ce genre de choses. Mais déjà, je ne facture pas. Et c'est voilà, c'est vraiment très très peu, mais je ne vais pas écrire tout le site parce que je n'ai pas envie de ça. Et je restais avec les mots à l'affiche ou ce côté, j'écris quand les planètes sont alignées, quand ben, je suis reposée. Alors je vais beaucoup plus écrire l'été où j'ai moins de travail, où les commandes sont plus lentes. Là, par exemple, en période, là, en décembre, ce n'est pas possible du tout d'imaginer écrire une affiche. Je peux écrire beaucoup de mails sur. Là, j'écris un mail quotidiennement à tous mes abonnés pour expliquer un peu les coulisses. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quelque chose de vraiment joli, il faut que je sois apaisée sans notification, sans urgence, et que ce soit ce moment à moi qui est là, quoi.
Et je trouve très intéressant quand tu nous rapportes cette pratique et cette rencontre surtout de ce professeur particulier qui pendant de la seconde au master, donc en gros ça fait à peu près 7 ans de
Oui,
travail
c'est bien
ensemble,
ça.
où vous avez travaillé à finalement à une écriture rigoureuse, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, j'entends le
Oui.
plaisir de l'écriture, mais la rigueur, ce que j'entends, c'est comment est-ce que j'arrive à atteindre la substantifique moelle quelque part
C'est ça.
de ma pensée et de mon ressenti et comment est-ce que je la transcris sur papier.
Oui.
Qu'est-ce que tu as appris de plus précieux au cours de ces 7 années autour de cette pratique d'une écriture rigoureuse et plaisir?
Alors, je pense que j'ai appris qu'il m'a dit En fait, moi, j'ai toujours adoré écrire. J'ai toujours adoré enfin, tout ce qui est au niveau de créer, de créativité, mais j'avais pas de facilité là, de ce côté-là. J'avais énormément de facilité en maths. Tout le monde m'a dit d'aller en S. Moi, je voulais aller en L. Donc, mes parents m'ont dit d'accord, mais par contre, on va prendre des cours particuliers parce que pendant très longtemps, je faisais des fautes d'orthographe. Je fais encore des fautes d'orthographe d'ailleurs, je me fais relire, enfin pas, je me fais relire sur les affiches. Mais il m'a dit un jour, et je pense que c'est ce qui m'a permis de vraiment enfin, y croire. Il m'a dit, mais il y a un temps pour tout. Et moi, c'est ce que je dis à mes étudiants d'ailleurs, je leur dis, ils sont à bac plus, enfin, c'est des gens qui ont déjà eu le bac. C'est pas grave, il y a un moment où on a besoin d'avoir ces fautes d'orthographe parce qu'on se sent encore un petit peu enfant. Et il y a un moment où on va prendre une posture, on va se dire, où ben, on grandit. Et c'est le moment d'écrire mieux, d'enlever cette petite couverture rassurante, en fait. Et alors, on s'en rendait pas compte, mais moi, je me disais que j'étais nulle, en fait, que oui, j'adorais écrire, mais que j'y arrivais pas. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, mais ça va arriver, on va prendre le temps. Et tout le monde peut y arriver. Et puis aussi, bah, ça dépend du niveau social d'où on vient. Si vos parents font beaucoup lire, vous amènent au théâtre. Il y a des. Moi, je me suis retrouvée d'une école, d'un, dans lycée, d'un collège de banlieue à un lycée en centre-ville où j'avais un niveau bah, qui était beaucoup plus élevé et deux premières de la classe en troisième avec des gens qui avaient bah, un niveau beaucoup plus élevé que moi. Mais il m'a dit, c'est pas l'école ton problème, c'est que bah, le niveau à la maison est différent. Et du coup, il m'a appris ça, la patience, à me dire c'est pas ta faute et on va y arriver. Et si, parce que moi, je lui disais qu'à l'époque, peut-être que j'aimerais bien être professeur. Et je disais, mais j'y arriverai pas au concours. Il me dit, mais si, on t'y arrivera, il n'y a pas de raison. C'est juste du travail et de la rigueur. Et je crois qu'il m'a appris ça, il m'a appris la patience et à me dire, et c'est grâce à lui aussi que je pourrais faire de ma vie ce que je voudrais en faire. Lui était professeur à l'université, il a arrêté pour pouvoir faire de la musique, donner des cours particuliers et donner des cours d'anglais aussi. Et il me disait qu'il était beaucoup plus heureux avec ce nouveau planning qui bah, lui permettait d'avoir du temps pour lui et de gérer bah, sa vie comme il entendait. Et il m'a dit, mais mec, tu peux faire pareil, tu penses au concours de professeur. Donc si tu en as envie, c'est très bien, moi je t'accompagnerai jusque-là. Mais si tu veux faire autre chose, réfléchis à ce que tu aimes et tu te créeras ton métier. Et je sais que c'est grâce à lui et que je lui dois absolument bah, tout mon parcours.
Ce que je trouve merveilleux, c'est que c'est le pouvoir, en fait, ce qui est au cœur de notre échange là, c'est le pouvoir des mots et le pouvoir des rencontres.
Oui.
Et combien une personne, une phrase peut vraiment ouvrir un espace de possible, peut nourrir la confiance et rendre les choses possibles pour la suite d'un parcours.
Oui, oui, c'est tout à fait ça. Après, j'imagine qu'il faut savoir aussi saisir ses chances et ses paroles-là. Après, il a eu du temps, du coup, on s'est vu pendant un petit moment, mais je sais que sans cette personne-là et sans, j'aurais pu avoir un prof particulier, mais que ce soit pas lui et qu'il ait pas cette bienveillance et qu'il me dise juste, bah non, là, c'est pas possible, va faire S à tes professeurs en retour. Et oui, j'en serais pas là et je le remercie et je lui ai écrit il y a 1 ou 2 ans pour le remercier parce que je pense qu'il avait pas il s'était pas forcément rendu compte de l'impact qu'il avait eu dans ma vie.
Oui, c'est ça, c'est... Vas-y, je t'en prie.
Et j'espère pouvoir, bah, quand je donne des cours ou quand j'accompagne des entrepreneurs, c'est vraiment ce qui me motive aujourd'hui, c'est de donner cette confiance-là et de dire qu'en fait, on peut y arriver en se battant et avec un petit peu de rigueur. Si ça nous plaît vraiment, on peut avoir une force incroyable pour réussir ce qui nous plaît et pour progresser.
Ce que je trouve très touchant aussi, c'est de dire que de voir à quel point c'est puissant qu'une rencontre peut semer des graines. Comme tu le dis, quand on parle depuis sa place, on n'a pas forcément conscience de la graine qui a été semée et qu'est-ce qu'elle va devenir, cette graine-là. Et je trouve joli qu'il y ait ce retour aussi, que tu aies pris le temps de lui envoyer un message. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi beaucoup, pour dire combien cette parole, cette rencontre, ce moment a été important. Et qu'on dit, oui, la graine a été là, elle a germé, et aujourd'hui on l'entretient, cette plante, et on a même à cœur de la transmettre à quelqu'un d'autre, et de nous, à notre tour, semer des graines et espérer les voir germer.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me tient énormément à cœur, surtout des jeunes, de pouvoir dire vous pouvez faire un métier qui vous rend heureux et dans lequel vous allez vous épanouir. Moi, je pose toujours cette question en début d'année, de demander qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous aimez, quel est votre rêve. Et souvent, en début d'année, j'ai être riche ou être célèbre. Et moi, j'essaye vraiment de creuser. Surtout que je donnais des cours l'année dernière. L'idée, c'était en première année de créer un blog. Et du coup, je choisissais le sujet. Et c'était vraiment de creuser là-dessus, mais quelle est leur passion, qu'est-ce qui les élève, et c'est là-dedans, après, on réfléchira à comment en faire son métier et comment gagner de l'argent. Mais on va pas d'abord réfléchir à comment gagner de l'argent, parce que ça fonctionne très rarement, ça peut fonctionner, mais c'est pas, pour moi, c'est pas le bon côté. Et je sais que je dois beaucoup de choses à ce professeur-là qui m'a appris tout ça et qui m'a transmis parce qu'il incarnait ce qu'il faisait. C'était pas juste des paroles en l'air.
Oui, c'est ce que aujourd'hui toi tu as aussi à cœur de faire, d'incarner le
C'est ça.
message que tu portes. Enfin, quand
Tu
tu
sais, tout au
disais
moins.
hein, ce qui a fait que les mots à l'affiche sont arrivés dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu t'es dit, bah oui, il y a ce message que je délivre sur l'importance d'avoir une écriture émotionnelle, mais j'ai envie de à nouveau l'incarner et de m'assurer que ça fonctionne encore et que c'est bien ça
Oui,
voilà, que c'est vrai.
et il y avait aussi le fait que quand j'écrivais du coup mes cartes de vœux chaque année, c'était pour dire ce que je me souhaitais. Et ça fonctionne, c'est-à-dire que chaque année, depuis 2014, j'écris mes vœux avec mes grandes intentions de l'année. Et ça me permet, je les ai affichés en très grand, je les ai affichés, je les vois tous les jours. Tous les jours, je ne peux pas les oublier. Et tous les jours, je sème des petites graines pour arriver là où j'ai envie d'aller. Et ça fonctionne. Et j'ai reçu des dizaines de personnes qui m'ont dit qu'ils ont acheté une affiche, souvent l'affiche vive qui était la première, lors d'une séparation pour reprendre confiance, lors pour changer de métier, souvent aussi, en me disant ça m'a permis de prendre confiance en moi. Et qui m'ont dit ton affiche, elle m'a accompagnée. Et merci parce que la personne dit, je ne dirais pas que c'est 100% grâce à ton affiche, mais elle a été là et elle m'a donné confiance d'avancer. Et quand je doutais, je la relisais. Et c'est vraiment, je crois au pouvoir des mots, c'est vraiment quelque chose qui est vrai. Ça permet de changer une vie. Quand on se marie, déjà, il y a des mots comme ça qui changent. Et même dans notre rapport quotidien, moi, ce professeur, c'est des mots qu'il m'a dit, qui m'ont permis de changer. Et je crois que et de grandir et de prendre confiance. Et j'espère pouvoir faire la même chose avec les mots à l'affiche.
Et ce que j'entends dans ce que tu dis là, c'est effectivement à quel point les mots sont des boussoles, en fait, et la récurrence d'un mot répété, qu'on s'approprie, qu'on intègre finalement, qu'on engramme au fur et à mesure des jours et des passages devant l'affiche, par exemple, c'est quelque chose qui va être une boussole par rapport au cap qu'on se donne, même si le projet n'est pas très clair, même si on est encore dans le flou d'une manière ou d'une autre, mais plus le mot est là, plus l'intention est claire, plus le mot nous accompagne à garder notre cap et avoir une boussole qui va nous aider. Ça, c'est apaisant et ça, c'est comment dire, c'est fructueux en termes de chemin.
Oui, je crois aussi.
Dans ta pratique, du coup, à la fois la manière dont tu mènes ton activité et dans ta pratique d'écriture pour concevoir les affiches, quelles sont les sources d'inspiration que tu choisis d'inviter ou peut-être même de convoquer dans ton quotidien?
Je sais pas. Je pense que je suis quelqu'un de très très sensible et qui m'inspire un petit peu de tout. Donc j'ai pas j'adore lire, donc je lis beaucoup. J'aime beaucoup le cinéma d'auteur. Je vais au cinéma énormément. J'aime le théâtre. J'écoute beaucoup de musique. Donc s'il n'y a pas quelque chose de précis. Après moi j'ai toujours aimé la culture. J'en ai besoin pour vivre. Que ce soit avec les mots à l'affiche ou sans les mots à l'affiche. Je prends beaucoup de photos aussi. Et c'est tout un univers que j'ai depuis que je suis toute petite, où j'ai besoin de créer. Et peut-être que c'est la synthèse de tout ça qui arrive sur une affiche, où j'aime ce côté poésie du quotidien, retranscrire à travers les mots. C'est ce que je fais le mieux, mais je me merveille autant quand je vais au cinéma et que je vois un film où il y a cette magie-là.
C'est ça, c'est là aussi, on retrouve cette notion d'infusion. Tu te laisses infuser dans un bain
Oui.
de tous les bouillons de culture qui te nourrissent, toi, en tant qu'individu. Et après, quelque part, va émerger de tout ça un mot, une expression et une association de mots.
C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'intuition, et puis je trouve que le fait d'écrire a quelque chose de magique. Enfin, souvent quand je me relis après, enfin, on ne sait jamais d'où ça vient finalement, ça, enfin, comme n'importe quel art. Mais quand on voit ce qu'on écrit, et je sais, des fois ça m'a fait sourire, parce que j'ai déjà écrit quelque chose et le lendemain je voulais réécrire, ou j'avais perdu et je le retrouve, et finalement c'est presque au mot près que j'ai réécrit la même chose, et je me dis mais comment ça fonctionne finalement. Il y a quelque chose de très mystérieux, de très opaque dans tout ce qui est la création. Et peut-être que s'il n'y avait pas ce côté magique et on ne sait pas d'où ça vient, sûrement que ça m'intéresserait beaucoup moins.
C'est ça, est-ce que c'est moi qui choisis les mots ou est-ce que ce sont les mots qui me choisissent pour venir se déposer sur une feuille, quoi?
Disons qu'il y a beaucoup de travail en amont. C'est-à-dire, par exemple, mon professeur m'a fait apprendre le dictionnaire par cœur pour avoir les outils. C'est-à-dire, si vous avez peu de mots, si tu me demandes d'écrire en espagnol ou en anglais, j'ai pas ce langage aussi fin. Je n'y arriverai pas. La recherche ultime pour moi de l'écriture, c'est Flaubert qui disait ça, qui voulait écrire un livre sur le rien, sur le vide. Et pour moi, c'est ça, c'est arriver à avoir une écrire sur rien, que l'affiche tienne toute seule, que ce soit beau, et retranscrire avec justesse la réalité. Pour retranscrire avec justesse la réalité, il faut avoir les outils, les mots, donc avoir un vocabulaire riche, et lire beaucoup, et voilà, essayer de le travailler, ce muscle-là. Donc il y a quand même, voilà, une base. Si tu me demandes d'écrire en anglais quelque chose de beau, ça va être compliqué.
Oui, puis j'entends à nouveau cette exigence et cette envie, et surtout le plaisir aussi de la justesse, cette
Oui.
attention que tu vas avoir à ce qu'il y ait une cohérence et une convergence entre ce que tu décris et ce que tu vas traduire en mots.
Oui.
Tu parles de ce vocabulaire riche, du muscle de l'écriture. Et puis ce que j'entends aussi, c'est cette capacité à capter des ambiances, des messages qui sont ceux qu'on a besoin de venir nourrir ou alimenter, voilà, d'une manière ou d'une autre, dans l'époque dans laquelle on est aussi.
Oui. Et ça, t'es pas la première à me le dire. Du coup, je m'en suis rendu compte parce j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que on va dire mon petit grain de génie, s'il y en a un, c'est ça, c'est d'arriver à capter l'émotion ambiante et à le retranscrire et voilà, et à le retranscrire. Et du coup, je me dis bah, peut-être, oui. Mais j'ai pas ce côté. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être très très rigoureuses en ayant, par exemple, faire des tableaux Pinterest, en regardant ce qui fonctionne sur Instagram, faisant des études de cas, ce genre de choses. Alors que ce soit pour quand je faisais du graphisme ou pour les mots à l'affiche, moi je ne fais pas ça. Je regarde, je m'inspire, mais je ne prends pas des notes de manière scientifique. Je peux le faire sur certaines choses si j'en ai besoin, si on répond à un appel à projet et qu'il faut voilà, travailler de manière à faire une note d'intention. Oui, je peux le faire, mais ce n'est pas ce que je fais dans ma pratique quotidienne.
Et alors, tu as parlé tout à l'heure d'une question que tu poses aux étudiants que tu accompagnes, et moi qui ai une question que je trouve très belle et que j'aime beaucoup me poser et poser aux autres aussi. Et donc, j'ai envie de te la poser à toi. Qu'est-ce qui t'élève, toi, May? Et puis, qu'est-ce que tu projettes justement pour toi et pour les mots à l'affiche pour continuer de s'élever dans les mois et les années à venir?
Alors, je pense que ce qui m'élève le plus, ça va être de créer quelque chose. Et c'est vraiment bah, quand je tiens cet objet-là dont je suis fière, c'est quelque chose qui me rend bah, le plus heureuse. Donc, ça peut être dans l'écriture, mais ça peut être aussi préparer un plat pour les gens que j'aime et que ce soit bon et les voir aussi dans leur regard, que ce soit bon. Donc, partager quelque chose qui rend heureux. Donc, ça, c'est le projet, on va dire, qui m'élève. Et le deuxième, ça va être de donner confiance et d'élever les autres et leur permettre de réaliser leur rêve. Ça, c'est un projet peut-être plus. Enfin, voilà, c'est deux projets qui sont un petit peu différents, mais qui me rendent très, très heureuse. Et pour les mots à l'affiche, le grand projet, c'est revenir petit pas par petit pas à la littérature. C'est-à-dire, moi, j'ai fait des études donc, de lettres, de philo, et après, j'ai fait des études de communication. Quand j'accompagnais mes clients qui me parlaient souvent, ils me disaient que j'étais créative, que c'était de l'art ce que je faisais, je leur disais non, c'est de la communication. J'ai appris les codes pour transmettre un message juste, pour justement que vous puissiez faire votre art. Mais moi, je fais de la communication. Avec les mots à l'affiche, je reviens un petit peu petit pas dans la littérature. Moi, un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est l'accessibilité à la culture et notamment à la littérature. Je trouve que les affiches sont une très bonne porte d'entrée. C'est pas un livre qui fait peur. Je commence à m'associer avec des associations dans le milieu littéraire pour bah, soit participer à des festivals. Où il y aurait bah, des mots à l'affiche, où il y aurait des ateliers d'écriture, où mes affiches seraient projetées. Donc ça, c'était avant le Covid. Du coup, ça s'est pas fait, mais j'y tiens, qui seraient projetées pendant un festival sur des murs de certaines villes. Donc c'est voilà, ça c'est vraiment le projet qui me tient à cœur donc cet aspect associatif. D'abord, fallait vivre, que moi j'ai des bases stables pour pouvoir aider les autres. Mais c'est le projet qui me donne des étincelles et sur lesquelles on va petit à petit. Et les 3 premières années des mots à l'affiche, c'était quand même l'idée d'avoir une structure et une entreprise viable pour pouvoir après ben voilà, commencer à aller sur ce chemin-là.
Bah écoute, c'est un beau projet pour toi et pour les mots à l'affiche et puis pour toutes les personnes auprès desquelles tu as envie de faire rayonner les mots et la littérature, justement. Donc, je suis impatiente de découvrir tout ça. Pour terminer notre échange, May, juste, je suis curieuse, on va dire en mode morceau choisi, si tu devais retenir une affiche de celle que tu as créée jusqu'à présent, laquelle serait-elle et pourquoi?
Je sais pas. Je ne sais pas choisir. Alors là, celle qui me vient à l'esprit, c'est parce que j'en ai parlé hier sur Instagram. C'est l'affiche qui s'appelle Les plaisirs et les jours. C'est une affiche que j'ai, enfin, c'est un texte que j'ai écrit en 2013 ou 2014 qui a été publié sur Simple Thing. Et c'était la première fois qu'un grand magazine, que en plus j'admire énormément, me faisait appel pour que j'écrive un texte. Et j'avais fait mon mémoire sur une blogueuse que j'admire beaucoup qui s'appelle Anne-Solange Tardy, Cachemire et Soie. Et elle était passée juste avant pour écrire son texte. Et j'étais le numéro d'après. Et donc voilà, j'ai écrit ce texte. C'était sur mes bonheurs ou mes petits plaisirs quotidiens. Et je l'ai mis en page. Et je l'ai mis en page. J'en ai fait une affiche l'année dernière, il me semble. Je l'avais pas fait tout de suite. J'ai un petit peu réduit le texte. Elle est au-dessus de mon lit aujourd'hui en A1, donc c'est un format encore plus grand que ce que je propose. Que ce que je propose. Et elle me rappelle vraiment toutes ces petites graines qu'on sème, parce que c'est grâce au blog que le magazine m'a contactée. Et aujourd'hui, elle est en affiche et c'est vraiment tout ce parcours-là. Et quand j'ai envoyé à Simple Thing, je crois 2 ou 3 jours après que j'ai créé les mots à l'affiche, un petit message, ils ont été hyper enthousiastes en me disant oui, on va en parler. Et je me dis, c'est tout un parcours de vie qui s'est fait de petits choix, pas de choses qui semblent ambitieuses, pas des choix normaux, enfin, et finalement qui fonctionnent et qui me permet de me sentir à ma place. Donc, ça serait les plaisirs et les jours, je pense.
Formidable. Écoute, un grand merci à toi, May, pour tous ces partages, pour toute la justesse que tu as à cœur de mettre au quotidien, dans ton quotidien, dans ton travail, dans tes affiches. Et puis, je suis impatiente de découvrir tout le chemin que les mots à l'affiche et tous les beaux jours qu'ils ont encore devant eux.
Merci.
Alors, que vous a inspiré cette conversation? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau, de précieux, repartez-vous de cette conversation? Comment allez-vous vous en imprégner? Quel est le premier petit pas que vous choisissez de planifier et de réaliser dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici? Un grand merci à May pour sa confiance et ses partages généreux et authentiques. Je souhaite un avenir radieux et heureux à Les mots à l'affiche. N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation a fait émerger. Je suis toujours très curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous, en vous. Pour en savoir plus sur Les mots à l'affiche, direction le site lesmotsalaffiche.fr ainsi que les réseaux sociaux. Retrouvez également le blog de May sur videmiettesaupluriel.fr. Enfin, cette conversation s'est prolongée par la création d'une affiche à quatre mains sur le choix entre les mots à l'affiche et avez-vous choisi? May et moi avons pris beaucoup de plaisir à penser et concevoir cette affiche ensemble. Alors pour en savoir plus, contactez-moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu, faites-le savoir avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcasts ou sur mon site. Vous pouvez aussi partager cet épisode aux personnes qui pourraient intéresser autour de vous et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, voilà bien le plus précieux des soutiens que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriane-savouré-lucas.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi, vous serez ainsi informé dès la publication d'un nouvel épisode et vous recevrez la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail le lundi et que je vous invite à faire germer au fil de votre semaine. Je vous souhaite une lumineuse semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?